Chapitre 15. Un tas de sable. Egwene ouvrit les yeux et regarda dans le vide. Un moment, elle resta allongée sur son lit, caressant distraitement la bague au serpent accrochée à la lanière de cuir autour de son cou. Porter le bijou à un doigt lui aurait valu trop de coups d'œil interloqués. Quand on voulait passer pour une disciple des matriarches, mieux valait faire oublier son statut d'Aes Sedai. De toute façon, elle n'en était pas une. Mais après avoir prétendu être une sœur pendant si longtemps, il lui arrivait de ne plus très bien savoir où elle en était. Filtrant du rabat, les premiers rayons de soleil illuminaient chichement l'intérieur de la tente. Sa tête lui faisant un mal de chien, Egwene aurait tout aussi bien pu passer une nuit blanche. Depuis le jour où l'Anfear avait failli les abattre, Avienda et elle, cette terrible journée où Moiraine et la rejetée s'étaient entretuées, Egwene revenait immanquablement de Telaran Riod avec un début de migraine. Rien d'atroce, mais une gêne quand même. Par bonheur, au pays, Nineveh lui avait enseigné les bases de la phytothérapie, et depuis son arrivée à Kyrienne, elle avait réussi à trouver quelques-unes des plantes adéquates. Une infusion de racines bon sommeil risquait de l'assommer un peu, voire de l'endormir pour des heures, fatiguée comme elle était, mais ça la débarrasserait totalement de son mal de tête. Egwene se releva, tira sur sa chemise de nuit imbibée de sueur, avança sans bruit sur les multiples couches de tapis qui couvraient le sol et atteignit sa cuvette. En fait, une coupe en cristal taillé qui avait dû jadis contenir du punch dans le manoir de quelques nobles seigneurs. Pour l'heure, elle était remplie d'eau claire, comme le broc d'émail bleu. Une eau qui ne parut pas fraîche du tout à Egwene quand elle s'en aspergea le visage. Croisant son regard dans le petit miroir au cadre doré appuyé contre la toile de la tente, la jeune femme s'empourpra aussitôt.
« Eh bien, tu t'attendais à quoi d'autre ?»
murmura-t-elle. Si impossible que ça puisse paraître, son reflet rougit encore plus. Il s'était agi d'un simple songe, pas comme dans le monde des rêves, où tout ce qui arrivait se révélait bel et bien réel lorsqu'on se réveillait. Mais elle se souvenait de tout, comme si ça s'était vraiment produit. De quoi virer à l'écarlate. Un songe, simplement, et celui de Gawain en plus de tout. Il n'avait aucun droit de rêver d'elle ainsi.
« Tout est sa faute !»
lança Egwene à son reflet.
« Et moi, je n'ai su pour rien. Je n'ai pas eu le choix. »
Egwene se tut, plutôt honteuse. Tenter d'accuser un homme à cause de ce qu'il rêvait, et parler à son miroir comme une idiote. S'arrêtant devant le rabat, la jeune femme jeta un coup d'œil dehors. Sa tente basse se trouvait à la lisière du camp Aiel. À environ trois quarts de lieue, à l'ouest, se dressait le mur d'enceinte gris de Kyrienne. Sur cette distance, le terrain était découvert, sauf à l'endroit où gisaient les cendres de la ceinture qui entourait jadis la ville. Si on se fiait à l'angle de ses rayons, le soleil venait juste de poindre à l'horizon. Pourtant, les aïels allaient et venaient déjà entre les tentes. Ce matin, Egwene n'avait aucune envie de se lever tôt. Après une nuit entière passée hors de son corps, à cette évocation, elle s'empourpra de nouveau. Par la lumière. Allait-elle rougir à cause d'un rêve jusqu'à la fin de ses jours? Eh bien, ça semblait parti pour, en effet. Après une nuit passée hors de son corps, donc, elle entendait bien dormir jusqu'au début de l'après-midi. Et les bonnes odeurs de cuisson du petit-déjeuner ne parviendraient pas à la détourner de son objectif. D'un pas traînant, elle retourna à son lit, se glissa sous les couvertures et se massa les tempes. Dans son état, préparer l'infusion lui semblait un effort surhumain. Mais la douleur diminuait déjà, et lorsqu'elle se réveillerait de nouveau, ce ne serait plus qu'un mauvais souvenir. Tout bien réfléchi, il n'était pas étonnant que Gawain envahisse ses rêves. De temps en temps, elle reproduisait un des songes du jeune homme, avec des variantes tout de même. Dans ces versions, certains événements embarrassants ne se produisaient pas, ou étaient en tout cas pudiquement occultés. Dans ces rêves-là, Gawain passait beaucoup plus de temps à réciter de la poésie et à lui tenir la main, tandis qu'il contemplait des levers ou des couchers de soleil. N'hésitant jamais quand il lui déclarait son amour, il était au moins aussi beau que dans la réalité. D'autres rêves n'appartenaient qu'à la jeune femme. Des baisers qui duraient éternellement. Gawain agenouillé, tandis qu'elle lui tenait tendrement la tête à deux mains. Quelques-uns de ses songes n'avaient aucun sens. Deux fois de suite, elle s'était vue prenant le jeune homme par les épaules afin de le forcer à se tourner et à regarder dans la direction opposée. La première fois, il avait écarté ses mains sans douceur. La seconde, elle s'était révélée plus forte que lui. Depuis, ces deux rêves s'étaient fondus l'un dans l'autre en une sorte de brouillard. Dans un autre songe, Gawain poussait une porte sur elle. Et si l'étroite bande de lumière qui subsistait finissait par disparaître, Egwene savait que ça signerait sa sentence de mort. Des rêves tourbillonnaient dans son esprit. Pas tous au sujet de Gawain, et plus proche du cauchemar que du songe. Perrine vint se camper devant elle, un loup couché à ses pieds et, perché sur ses épaules, un faucon et un épervier qui se défiaient du regard par-dessus sa tête. Apparemment pas conscient de la présence des oiseaux de proie, Perrine tentait de jeter au loin sa fameuse hache de guerre. N'y parvenant pas, il finit par s'enfuir, mais l'arme vola dans les airs et le poursuivit. Encore Perrine. Tournant le dos à un zingaro, il détalait, accélérant le pas alors qu'elle l'appelait, l'implorant de revenir vers elle. Alors que Matt disait d'étranges mots qu'Egwene comprenait presque, de l'ancienne langue aurait-on dit, deux corbeaux se posèrent sur ses épaules, leurs serres s'enfonçant dans la chair à travers le tissu de sa veste. Semblant ne pas s'apercevoir de la présence des oiseaux, comme Perrine un peu plus tôt, Matt eut d'abord une lueur de défi dans le regard, puis il sembla se résigner à quelque mystérieuse souffrance. Dans un autre rêve, une femme dont le visage était plongé dans l'ombre faisait signe à Matt d'avancer vers un terrible danger. Sans en connaître la nature, Egwene savait qu'un calvaire attendait son ami. Plusieurs songes tournaient autour de Rand. Pas tous désastreux, mais résolument étranges. Dans l'un d'eux, Elaine, une main sur son épaule, forçait le jeune homme à s'agenouiller. Dans un autre, assise en cercle autour de lui, Elaine, Min et Avienda, sans dire un mot, tendaient un bras chacune à leur tour afin de le toucher. Dans un troisième, Rand avançait vers une montagne en feu, tandis que ses bottes écrasaient des objets qui craquaient sinistrement. Dans son sommeil, Egwene s'agita et gémit. Les objets étaient les sceaux de la prison du Ténébreux. Elle n'avait pas besoin de les voir pour le savoir, et Rand les réduisait en miettes à chaque pas. Alimentés par la peur, les rêves devinrent encore pires. Deux étranges femmes, celles qu'Egwene avait vues dans le monde des rêves, s'emparèrent d'elle et la traînèrent devant une table où siégeaient d'autres femmes portant une cagoule. Quand elles la retirèrent, toutes avaient les traits de Liandrine, la sœur noire qui avait capturé Egwene à Théar. Une Céane chanienne au visage dur tendit à la jeune femme un collier et un bracelet reliés par une chaîne d'argent. Un Adam. Se souvenant que les Céanes chaniens lui avaient naguère passé un collier autour du cou, Egwene cria d'horreur. Plutôt mourir que revivre ça. Rand gambadait dans les rues de Caerienne, riant tandis qu'il frappait les bâtiments et les gens avec du feu et des éclairs. D'autres hommes marchaient avec lui, semant la même destruction. Cette affreuse amnistie qu'il avait décrétée était connue à Caerienne, mais quel homme saint d'esprit aurait choisi de canaliser? L'ayant faite prisonnière dans Tel Aran Riod, des matriarches la proposaient sur un marché aux esclaves, comme un animal, au cœur des terres qui s'étendaient au-delà du désert des Aiel. Le sort que les guerriers faisaient subir aux Caerienniens qui s'aventuraient sur leur territoire. Sortie de son corps, Egwene regardait son visage fondre, sa tête craquant comme une noix. Des silhouettes floues l'aiguillonnaient avec des bâtons, visant les côtes, et... Egwene se dressa d'un bond dans son lit, haletante. Reculant, Cowind s'assit sur les talons, la tête inclinée dans la capuche de sa robe blanche.
« Excusez-moi, Aes Sedai, je voulais vous réveiller afin que vous rompiez le jeûne de la nuit. Oh, pour ça, tu n'avais pas besoin de me transpercer les côtes !»
Egwene regretta aussitôt cette saillie. De l'irritation passa dans les yeux bleus de Cowind, mais disparut vite devant le masque de résignation et de soumission des Gaishain. Ayant juré d'obéir et de ne pas toucher une arme pendant un an et un jour, les Gaishain acceptaient tout, que ce soit une injure, une gifle ou même un coup de couteau dans le cœur. Probablement. Cela dit, pour un Aiel, tuer un Gaishain revenait à assassiner un enfant. Un tel acte étant impardonnable, le coupable aurait été abattu par sa sœur ou son frère. La soumission des Gaishain restait cependant une mascarade. Egwene en aurait mis sa main au feu. Ces guerriers vaincus jouaient le jeu de leur mieux, mais il restait des Aiel, le peuple le moins apte à la soumission que connaissait Egwene. Ça valait même pour Cowind, qui avait refusé de retirer sa robe blanche alors que son service avait pris fin. Son acte était dicté par la fierté et le désir de défier le monde, exactement comme celui d'un homme qui met son point d'honneur à ne pas fuir alors qu'il affronte 10 ennemis. À cause du Jieto, les Aiel se mettaient parfois dans des situations inextricables. Entre autres raisons, c'était pour ça qu'Egwene s'efforçait de parler dignement aux Gaishain, et tout particulièrement à ceux qui se comportaient comme Cowind. Car ces gens n'avaient aucun moyen de se défendre, sauf s'ils violaient toutes les valeurs qu'ils vénéraient. Cela posé, Cowind était une ancienne promise de la lance, et il ne tenait qu'à elle de le redevenir si elle finissait par retirer cette fichure blanche. Si on faisait abstraction du pouvoir, elle aurait sans doute été capable de briser en deux l'échine des Gwen d'une seule main, tandis que l'autre aiguisait un fer de lance.
« Je n'ai pas faim. Va-t'en et laisse-moi dormir. »«
Pas de petit déjeuner ?»
lança Amis, en entrant sous la tente dans un grand cliquetis de colliers et de bracelets d'argent ou d'ivoire. Si la matriarche ne portait pas de bagues, chez les Aiel c'était fréquent, les autres bijoux qu'elle arborait auraient largement suffi pour trois femmes, et peut-être même pour une quatrième.
Je croyais que tu avais au moins retrouvé l'appétit.
Tout aussi parés de bijoux, Beyr et Melaine entrèrent derrière leurs collègues. Ces trois femmes appartenaient à des tribus différentes. Pourtant, à l'inverse des autres matriarches ayant traversé le mur du dragon, qui restaient avec leur clan, elles avaient fait dresser leur tente côte à côte. Au pied du lit des Gwen, elles s'assirent sur des coussins à pompons, puis ajustèrent le châle sombre dont les aiguilles semblaient ne jamais se séparer, à l'exception notable des fards d'Araismaï cependant. Les cheveux aussi blancs que ceux de Beyr, une doyenne au visage ridé, Amis paraissait étrangement jeune, sans doute à cause du contraste entre sa peau lisse et sa crinière blanche. À l'en croire, il en allait ainsi depuis qu'elle était enfant. En règle générale, Beyr ou Amis ouvraient les hostilités. En ce jour, ce fut Melaine, une blonde aux yeux verts, qui prit la parole en premier.
« Si tu ne manges pas, tu iras mal. Nous avons envisagé de te laisser venir au prochain rendez-vous avec les Aes Sedai, qui demandent chaque fois quand elles pourront te revoir. » Se ridiculisant ainsi comme de dignes natives des terres mouillées.
Intervint Amis d'un ton acide. D'une nature plutôt bonne enfant, elle se renfrognait chaque fois qu'il était question des Aes Sedai de Salidar. Parce que les rencontrer la mettait mal à l'aise? Par principe, les matriarches, surtout celles qui canalisaient comme Amis ou Melaine, évitaient de frayer avec les sœurs. En plus, ces trois-là étaient mécontentes que les Aes Sedai aient remplacé Nineveh et Elaine lors des réunions. Et Gwen n'en était pas ravie non plus. Les Aiel, soupçonnait-elle, devaient éprouver le sentiment d'avoir impressionné ces deux sœurs-là en insistant sur l'aspect sérieux et dangereux de Telaran Riod. D'après le peu qu'elle glanait au sujet de ces rencontres, Egwene aurait juré que les Aes Sedai n'étaient pas impressionnés le moins du monde. Peu de choses leur faisaient cet effet.
« Mais nous allons devoir y réfléchir encore, »
continua Melaine. Avant son mariage, un rien suffisait à la faire se dresser sur ses argots. Depuis ce jour béni, elle aurait pu passer pour un véritable agneau.
« Tu ne dois pas retourner dans le monde des rêves avant d'être tout à fait rétabli. »«
Tu sembles avoir du mal à garder les yeux ouverts, »
dit Beyr d'une voix chevrotante. Malgré son allure, c'était pourtant sur bien des plans la plus solide des trois matriarches.
« Dormirais-tu mal ?»«
Bien entendu qu'elle dort mal !»
lança Amis.
« Cette nuit, j'ai tenté à trois reprises de jeter un coup d'œil dans ses rêves. Mais je n'ai rien vu. Et quand on ne rêve pas, c'est qu'on dort mal !»
La bouche soudain sèche, Egwene sentit sa langue se coller à son palais. Il avait fallu que ces femmes vérifient la seule nuit où elle était restée extrêmement longtemps hors de son corps. Melaine fronça les sourcils. Pas à l'intention d'Egwene, mais de Cowind, toujours agenouillée la tête basse.
« Il y a un tas de sable à côté de ma tente, »
dit la matriarche avec un peu de son ancienne alacrité.
« Tu vas le retourner grain après grain, jusqu'à ce que tu en trouves un rouge. Et si ce n'est pas celui que je cherche, tu recommenceras. Exécution !»
Cowind se prosterna, son visage touchant le sol, puis elle sortit en trombe. De nouveau tout sourire, Melaine se tourna vers Egwene.
Tu parais surprise. Si elle ne fait pas d'elle-même ce qui convient, je l'y inciterai, tu peux me croire. Puisqu'elle entend continuer à me servir, je conserve mes prérogatives.
Beyr hocha la tête, faisant onduler sa crinière blanche.
Ça ne donnera rien.
La matriarche tira sur son châle. Alors que le soleil était à peine levé, Egwene étouffait dans sa chemise de nuit. Mais les Aiel étaient habitués à des chaleurs bien plus extrêmes.
J'ai battu Djurik et Beyra jusqu'à en avoir mal au bras. Mais après leur avoir répété 100 fois que leur service est terminé, je les ai toujours revus en robe blanche avant le coucher du soleil.
C'est terrible,
marmonna Amis.
Depuis que nous sommes entrés dans les terres mouillées, un bon quart des Gaishine dont le temps de service est fini ont refusé de retourner dans leur clan. Ils détournent le sens profond du Jieto.
C'était l'œuvre de Rand, parce qu'il avait révélé à tous les Aiel ce que seuls les chefs de tribu et les matriarches savaient jusque-là. Jadis, leur peuple refusait de brandir une arme ou de s'abandonner à la violence. Depuis, certains Aiel pensaient que les Gaishine, étaient en fait les héritiers d'une tradition sacrée. Pour la même raison, d'autres refusaient de voir en rendre le caracarne destiné à les guider. Chaque jour, les dissidents partaient rejoindre les Chaïdo au nord, dans les montagnes. Quelques réfractaires se contentaient de jeter leurs armes et de s'enfuir, et personne ne savait ce qu'il advenait d'eux. Des victimes de la sidération, disaient les guerriers. Le plus étrange, en tout cas aux yeux des Gwen, restait qu'aucun aïel ne blâmait Rand, à l'exception des Chaïdo, bien entendu. Selon la prophétie de Ruidéan, il ramènerait les aïels en arrière, puis il les détruirait. Si personne ne savait très bien ce que signifiait le « ramènerait en arrière », le « détruirait » semblait sans ambiguïté. Et ce peuple en acceptait les conséquences avec le même calme que Cowind, quand on lui assignait une tâche absurde qu'elle n'avait aucune chance d'accomplir. Pour l'heure, Egwen se serait fichu comme d'une guigne que tous les aïels de Kaerien décident de porter la robe blanche. En revanche, elle aurait donné cher pour que les matriarches ne soupçonnent jamais à quel petit jeu elle se livrait. Pour expier ce forfait, elle aurait bien volontiers retourné une centaine de tas de sable. Mais bien entendu, elle n'aurait pas eu cette chance, car sa punition aurait été bien plus dure. Un jour, Amis avait précisé les choses sans détour. Si elle n'obéissait pas au doigt et à l'œil, il n'y aurait plus de formation. Car le monde des rêves, si on ne respectait pas cette condition, était beaucoup trop dangereux. À n'en pas douter, les autres matriarches partageaient ce point de vue. Et plutôt que subir ce châtiment-là, Egwen aurait préféré retourner un millier de tas de sable.
« N'aie pas l'air si dépité !»
fit Beir avec un petit rire.
Amis n'en a pas après tous les habitants des terres mouillées. Et elle n'est sûrement pas en colère contre toi, qui est devenue comme une enfant de nos tantes. C'est l'autre Aes Sedai, ta sœur. Cette Carlinia avance que nous te retenons contre ta volonté.
Avance ?
S'écria Amis, sourcil froncé.
Elle l'a carrément affirmé, mais elle aura appris à mieux tenir sa langue.
Ajouta Beir. Hilar sur son coussin rouge.
En tout cas, je parie qu'elle retiendra la leçon. Quand nous avons quitté les sœurs, Carlinia se tortillait dans tous les sens pour chasser de sa robe ses agames écarlates.
La matriarche se pencha pour parler à l'oreille des Gwen.
Pour les ignorants des terres mouillées, un agame écarlate ressemble à s'y méprendre à un aspic rouge. En réalité, il s'agit d'un lézard non venimeux, mais qui se débat beaucoup quand il est piégé, cela dit. Ces lézards auraient filé si elle les avait traités par le mépris,
marmonna Amis.
Mais cette femme est idiote. Les Aes Sedai que nous servions durant l'âge des légendes ne pouvaient pas être aussi stupides.
Cela dit, la matriarche semblait de bien meilleure humeur, suite à cette évocation. Mais Lane riait de bon cœur, et Egwen se laissa aller à glousser. En règle générale, l'humour Aiel la dépassait, mais pas dans ce cas précis. Même en ayant rencontré la stricte et pompeuse Carlinia qu'en trois occasions, l'imaginer en train de s'agiter pour chasser des serpents de sa robe avait de quoi dérider n'importe qui.
« Au moins, »
fit Mélaine.
« Ton sens de l'humour se porte bien. Les migraines ne sont pas revenues. Ma tête ne me pose plus de problème. »
mentit Egwen.
« Parfait !»
se réjouit Beir.
« Un moment, ça nous a inquiétés. Si tu continues à rester à l'écart du monde des rêves pendant un moment, elles ne reviendront plus. Surtout, ne crains pas d'en garder des séquelles. Le corps utilise la douleur pour nous inciter au repos. »
Egwen faillit éclater de rire pour de bon, mais ironiquement cette fois. Quand ils estimaient avoir mieux à faire, les aïels pouvaient ignorer superbement des plaies béantes et des fractures ouvertes.
« Combien de temps encore devrais-je faire abstinence ?»
demanda la jeune femme. Si elle n'aimait pas mentir au matriarche, elle détestait plus encore ne rien faire. Les 10 premiers jours après que l'Anfear l'eût attaquée, de quelque manière qu'elle s'y soit prise, avaient été un véritable calvaire. Tenter simplement de réfléchir lui vrillant le crâne, elle avait été réduite à l'inactivité absolue. Une fois ce stade dépassé, ce que sa mère appelait ses « fourmis dans les jambes et les bras » l'avait incité à s'introduire en douce dans le monde des rêves. Les matriarches auraient détesté. Mais qu'apprenait-on en se reposant quand on allait bien chercher ?
« Le prochain rendez-vous, c'est ça ?»«
Peut-être. »
éluda Mélaine.
« Nous verrons, mais tu dois manger. Si ton appétit t'a abandonné, tu souffres d'un mal qui nous échappe. »
« Mais je peux manger !»
s'écria Egwen. À ce propos, la bouillie de flocons d'avoine qui cuisait dehors sentait très bon.
« J'étais paresseuse, je suppose. »
En réalité, se lever sans grimacer était toute une affaire, car la tête de la jeune femme n'appréciait toujours pas les mouvements brusques.
Cette nuit, j'ai pensé à de nouvelles questions.
Mélaine eut un regard amusé.
Depuis que tu es blessé, tu en poses 5 fois plus qu'avant.
Parce qu'elle avait 5 fois plus d'énigmes à résoudre. Ne pouvant dire à voix haute ce qu'il en était, Egwene sortit une sous-chemise propre et sèche d'un petit coffre et l'enfila après avoir retiré la sienne, toute poisseuse de sueur.
« Poser des questions est une bonne chose, »
dit Beyr.
« Nous t'écoutons. »
Tout en cherchant soigneusement ses mots, Egwene continua à s'habiller, revêtant le chemisier d'algot blanc et la lourde jupe de laine, qui constituait la tenue traditionnelle des matriarches.
« Peut-on être attiré contre sa volonté dans le rêve de quelqu'un d'autre ?»«
Bien sûr que non, »
répondit Amys.
« À moins d'avoir 2 mains gauches. C'est vrai qu'il faut être très maladroite. »
intervint Beyr.
Sauf s'il y a en jeu une émotion très forte. Si tu essaies d'observer le songe de quelqu'un qui t'aime ou qui te déteste, alors ce que tu dis peut se produire. Idem si c'est toi qui aimes ou qui déteste la personne. C'est pour cette seconde raison que nous ne tentons pas d'épier les rêves de Sevana, ni de parler avec les matriarches des Shaido dans leurs songes.
Et Gwen continua à s'ébaubir que ces femmes, et toutes les autres matriarches également, entretiennent encore des rapports normaux avec leurs homologues Shaido. En principe, les matriarches étaient au-dessus des querelles et des rancœurs, mais en s'opposant au Karakarn et en projetant de le tuer, les Shaido étaient allés bien au-delà de simples dissensions.
« Sortir du rêve de quelqu'un qui t'aime ou te déteste, » conclut Beyr, « revient à essayer de s'extraire d'un puits très profond à la paroi parfaitement lisse. »« Tout est là !»
lança Amys. De nouveau quasiment guillerette, elle coula un regard en coin à Mélaine.
C'est pour ça qu'aucune femme capable de marcher dans les rêves ne commettrait l'erreur grossière d'épier les songes de son mari.
Les joues rouges, Mélaine regarda droit devant elle.
« En tout cas, »
insista Amys, portant le coup de grâce,
« elle ne la commettrait pas 2 fois. »
Beyr sourit, creusant les sillons de ses rides, et évita de regarder Mélaine, avec une insistance qui en disait plus long que bien des discours.
« Ça peut être très dur, s'il est en colère contre sa femme. » Pour prendre un exemple au hasard, parce que le Jieto le force à s'éloigner d'elle, et que cette petite dinde, comme une gamine, est assez stupide pour lui dire qu'il doit rester s'il l'aime vraiment.
Nous nous éloignons beaucoup de la question des Gwen,
dit Mélaine, de plus en plus rouge. Beyr s'autorisa un ricanement. Et Gwen parvint à contrôler sa curiosité et à contenir son amusement.
Et si on n'essaie pas de regarder?
Demanda-t-elle d'un ton neutre. Mélaine la gratifia d'un regard reconnaissant qui la fit frémir de culpabilité. Rien qui l'empêcherait cependant de se faire raconter toute l'histoire un peu plus tard. Pour que Mélaine en rougisse, il devait y avoir vraiment de quoi rire.
« J'ai entendu parler d'un cas semblable, »
dit Beyr.
« Quand j'étais jeune, au début de ma formation, la matriarche de la forteresse de Colrada, Mora, était mon professeur. Et selon elle, si l'émotion était très forte, un amour ou une haine ne laissant de place pour rien d'autre, on risquait d'être attiré dans le rêve simplement en s'autorisant à avoir conscience de son existence.
« On ne m'a jamais rien dit de tel, »
fit Mélaine. Amys ne cacha pas sa perplexité.
« À moi non plus, »
dit Beyr.
« À part Mora. Mais c'était une femme remarquable. Quand elle est morte d'une morsure de vipersan, elle approchait de son 300e anniversaire. Pourtant, elle avait l'air aussi jeune que vous deux. J'étais toute jeune, mais je ne l'ai pas oublié. Un vrai puits de science, et très puissante dans le pouvoir. Des matriarches de toutes les tribus venaient suivre son enseignement. D'après moi, une haine ou un amour si fort sont très rares. Mais elle a vécu 2 fois cette expérience. D'abord avec son premier mari, puis avec une rivale qui lui disputait l'intérêt de son 3e époux.
« 300 ans !»
s'écria Egwene, tout en finissant de lasser une de ses bottes souples. Même les Aes Sedai ne vivaient pas si longtemps.
« Je répète ce qui se disait, »
fit Beyr avec un sourire.
« Certaines femmes, comme Amys, vieillissent moins vite que les autres. Et quand il s'agit de quelqu'un comme Mora, les légendes ont vite fait de naître. Un de ces jours, je vous raconterai comment elle a un jour déplacé une montagne, d'après ce qu'on disait, bien entendu.
« Oui, c'est ça, un de ces 4. »
fit Mélaine avec un rien de courtoisie en trop. À l'évidence, elle ne décolérait pas au sujet de ce qui s'était produit dans le rêve de Baël, quoi que ce fût. Et elle digérait fort mal que les autres soient au courant.
« Quand j'étais enfant, j'ai entendu toutes les histoires possibles au sujet de Mora. Je les connais encore par cœur, je parie. Si Egwene finit un jour de s'habiller, il faudra nous occuper de la nourrir. »
Une lueur dans les yeux verts de la matriarche indiqua qu'elle suivrait le repas jusqu'à la dernière bouchée. À l'évidence, ses soupçons au sujet de la santé d'Egwene étaient toujours aussi vifs.
« Et répondre à ses autres questions, »
ajouta Mélaine. Egwene en chercha désespérément une autre. D'habitude, elle n'en manquait pas, mais les événements de la nuit passée ne lui en avaient laissé qu'une. Si elle en était restée là, les matriarches, fines mouches, se demanderaient si elle n'était pas pour de bon aller épier le rêve de quelqu'un. Une autre question. Il lui fallait une autre question. Pas au sujet de ses propres rêves, tellement étranges. Certains devaient avoir un sens, même si elle peinait à le découvrir. Selon Anaya, elle était une rêveuse capable de prévoir l'avenir. Les trois matriarches pensaient que c'était possible, mais selon elle, il lui faudrait le découvrir par elle-même. De plus, elle n'avait guère envie de débattre de ses songes avec qui que ce soit, et ses aïeuls en savaient déjà bien trop long sur ce qui se passait à l'intérieur de sa tête.
« Et les femmes qui sont capables de marcher dans les rêves sans être des matriarches, en avez-vous jamais vu dans Telaran Riod ?»«
Très rarement, » répondit Amys. Sans quelqu'un pour la former, une femme risque de ne pas s'apercevoir qu'elle expérimente autre chose qu'un songe très réaliste et très impressionnant. « Et si elle ne s'en rend pas compte ?»
ajouta Beyr.
« Ce rêve risque fort de la tuer avant qu'elle ait pu avoir un doute. »
Voilà, on s'éloignait du sujet glissant. Soudain détendu, Egwene s'avisa qu'elle avait glané plus de réponses qu'elle l'espérait. Déjà consciente qu'elle aimait Gawain,
« Vraiment ?»
demanda une petite voix dans sa tête.
« Étais-tu prête à te l'avouer ?»
Elle savait désormais, grâce au rêve du jeune homme, qui lui rendait ses sentiments. N'était un bémol. Si les hommes pouvaient mentir en état de veille, pourquoi en aurait-il été incapable en dormant? Mais les matriarches venaient de lui confier qu'un amour assez fort pouvait avoir l'effet d'un aimant et primer sa volonté. Non, ce n'était pas le moment de penser à ça, alors qu'elle n'avait pas la moindre idée de l'endroit où était Gawain. L'essentiel, c'était de savoir que le risque existait. La prochaine fois, elle serait à même de reconnaître les songes de Gawain et de...
À condition de le vouloir vraiment,
railla la petite voix. Avec un peu de chance, les matriarches pendraient la soudaine roseur de ses joues comme un signe de bonne santé. Que n'aurait pas donné Egwene pour connaître le sens de ses propres rêves, s'ils en avaient un? En bâillant, Elaine grimpa sur un perron de pierre afin de regarder par-dessus les têtes des gens. Aujourd'hui, il n'y avait pas de soldats à Salidar. Mais les gens se pressaient dans les rues ou derrière leurs fenêtres, tous rivant les yeux sur la petite tour. Seules quelques quintes de toux et raclements de semelles troublaient un silence de plomb. Malgré la touffeur matinale, les curieux ne bougeaient pas, osant à peine se ventiler un peu en agitant devant leur nez un éventail ou un chapeau. Entre deux maisons au toit de chaume, Léane était accrochée au bras d'un grand type au visage dur qu'Elaine voyait pour la première fois. Vraiment accroché, fallait-il préciser. Le type était sans doute un des agents de l'ancienne gardienne des chroniques. En principe, les yeux et les oreilles des Aes Sedai étaient majoritairement des femmes. Dans le cas de Léane, cette règle s'inversait. Elle se montrait très discrète, mais Elaine l'avait une ou deux fois surprise à tapoter la joue d'un inconnu ou à sourire à un autre, les yeux dans les siens. Comment la Domanie s'y prenait-elle pour jouer à ce jeu sans jamais se brûler les ailes? Si Elaine s'y était essayée, nul doute que les hommes y auraient vu bien plus de promesses qu'elle avait l'intention d'exprimer. Avec Léane, ils se laissaient flatter la joue et gratifier de sourires, puis repartaient aussi heureux que si elle leur avait remis un coffret de pièces d'or. Ailleurs, dans la foule, la fille héritière repéra Birgit. Très judicieusement, l'héroïne se tenait très loin d'elle ce matin. Et pour une fois, l'horrible Areina n'était nulle part en vue. La nuit ayant été plus que mouvementée, Elaine ne s'était pas couchée avant les premières lueurs de l'aube. À dire vrai, elle ne se serait pas couchée du tout si Birgit n'avait pas soufflé à Ashmanai que la fille héritière avait l'air très mal fichue. Bien entendu, il ne s'agissait pas de son apparence physique. Le lien avec un champion, en l'occurrence une championne, fonctionnait en effet dans les deux sens. Et même si elle était un peu fatiguée, pourquoi en faire tout un plat? Après tout, il avait fallu abattre beaucoup de travail, et elle restait capable de canaliser le pouvoir deux fois mieux que la moitié des Aes Sedai de Salidar. Grâce au lien, il lui apparut que c'était l'héroïne qui n'avait pas dormi. Pendant qu'elle transportait les blessés et nettoyait les dégâts, La fille héritière avait été envoyée au lit comme une vulgaire novice. Du coin de l'œil, Elaine vit que Léane, désormais seule, se faufilait dans la foule pour trouver un bon point d'observation. Le grand type semblait s'être volatilisé. Les yeux bouffis de sommeil, bâillant elle aussi à s'en décrocher la mâchoire, Ninevée rejoignit Elaine sur son perchoir, non sans dissuader d'un regard noir le bûcheron en gilet de cuir qui avait manifesté l'intention de lui brûler la politesse. Mossad, l'homme bâti en retraite dans la foule. Elaine aurait donné cher pour que Ninevée s'abstienne de bâiller, pas de foudroyer des yeux de pauvre quidam. Par contagion, elle s'y était remise aussi, et sa mâchoire menaçait de se décrocher. Si Birgit pouvait avoir quelques excuses, ce n'était pas le cas de Ninevée. Après ce qui s'était passé la veille, Théodrine n'avait pas pu escompter sérieusement que l'ancienne sage-dame ne dorme pas. De plus, Anaya lui avait explicitement ordonné d'aller se coucher. Elaine l'avait entendue. Pourtant, quand elle était entrée dans la chambre, elle avait trouvé Ninevée assise sur le tabouret, en train de se balancer malgré un des pieds désormais en mauvais état, et répétant toutes les 2 minutes qu'elle allait lui montrer à cette Théodrine, et à tout le monde tant qu'elle y était. À travers le bracelet de la dame, Elaine capta naturellement de la peur, mais aussi ce qui semblait bien être de l'amusement. Mogadienne avait passé la nuit cachée sous son lit. Du coup, il ne lui était rien arrivé, et elle n'avait pas eu besoin de ramasser le moindre détritus. Une fois le calme revenu, elle s'était même offert une bonne nuit de sommeil. Parfois, la chance du ténébreux semblait être un peu plus qu'une simple façon de parler. Voyant que Ninevée bâillait de nouveau, Elaine détourna vivement la tête. Même ainsi, elle dut se plaquer un poing sur la bouche pour ne pas céder à la contagion. Soudain, les raclements de gorge se firent plus nombreux et plus impatients. Si les représentantes étaient encore dans la petite tour avec Tarna, le hongre rouan de la Sœur Rouge avait été amené dans la rue devant l'auberge, et une dizaine de champions, tenant leur monture par la bride, attendaient d'escorter la visiteuse sur les premiers lieux de son voyage de retour vers Tarvalonne. Même s'il semblait tout aussi épuisé qu'Elaine, les gens n'étaient pas là pour voir le départ de l'émissaire accompagné par des champions parfois difficiles à distinguer à cause de leur cap caméléon.
« On croirait qu'elle était... »
commença Ninevée avant de placer une main devant sa bouche béante.
« Oh, par le sang et les cendres !»
marmonna Elaine. Enfin, elle essaya. Parce que tout se perdit dans un gargouillis peu distingué, vite étouffé par le poing qu'elle se fourra entre les dents. Selon Ligny, les expressions de ce genre étaient l'indice d'une intelligence rudimentaire et d'un esprit obtus, et elle ne manquait jamais de les faire ravaler à la fille héritière. Parfois, cependant, il n'y avait rien de mieux pour exprimer certains sentiments fondamentaux. Sur le sujet, Elaine aurait volontiers développé sa pensée, mais Ninevée ne lui en laissa pas l'occasion.
« Pourquoi ne pas lui organiser un triomphe, tant qu'à faire ? Je ne vois pas pour quelle raison on fait tant de tralala avec cette femme. »
Sur ces mots, l'ancienne sage-dame bâilla une fois de plus.
« Encore une. »« Parce que c'est une Aes Sedai, espèce de marmotte. »
lança Siouan en rejoignant les deux jeunes femmes. Elle jeta un coup d'œil à Elaine.
« On dirait bien qu'il y en a deux, de marmottes. Si vous restez la bouche ouverte comme ça, vous finirez par gober des verrons. »
Elaine referma la bouche et foudroya l'ancienne chère d'Améline du regard. Bien entendu, celle-ci s'en moqua comme d'une guigne.
« Tarna est une sœur, mon enfant. »
répéta Siouan, en jetant un coup d'œil au champion qui attendait devant l'auberge. Ou s'intéressait-elle plutôt à la jolie charrette qu'on venait de pousser devant l'établissement ?
« Une Aes Sedai est une Aes Sedai. Et rien ne change cet état de fait. »
Ninevée eut un regard acide que Siouan ne vit pas. Elaine se réjouit que sa compagne ait ravalé la remarque évidente, car elle aurait été des plus cruelles.
« Nos pertes, hier soir ?»
demanda laconiquement l'ancienne sage-dame. Siouan répondit sans détourner les yeux de l'endroit où Tarna apparaîtrait bientôt.
« 7 morts au village, près de 100 dans le camp des soldats. Des épées, des haches et des piques traînaient un peu partout. Et il n'y avait personne pour les clouer au sol en canalisant. Des sœurs sont présentes dans le camp désormais, pour guérir les blessés.
« Comment va le seigneur Garrett ?»
demanda Elaine, un peu inquiète. L'homme battait froid à la fille héritière désormais. Quand Elaine était enfant, cependant, il lui avait toujours souri gentiment, sortant des bonbons de sa poche dès qu'il la voyait. Siouan ricana si violemment que des gens se retournèrent.
Ah, « ce type ! Un barracuda se casserait les dents sur sa couenne. Tu sembles de bonne humeur ce matin, »
dit Ninevée.
« As-tu enfin découvert ce que dit le message de la tour ? Ou Gareth Bryne t'a-t-il demandé en mariage ?
Quelqu'un est mort et t'a allégué.
Elaine s'efforça de ne pas regarder Ninevé. Même l'entendre bâiller suffisait à lui mettre la mâchoire en mouvement. Siouan gratifia l'ancienne sage-dame d'un regard glacial. Pour une fois, Ninevé le soutint froidement, malgré le larmoiement consécutif à ses bâillements.
« Si tu as des nouvelles ?»
intervint Elaine, avant que les deux femmes se soient hypnotisées comme une paire de cobras.
« Ne tourne pas autour du pot. »«
Une femme qui prétend être une Aes Sedai. »
fit Siouan d'un ton faussement dégagé.
« Cherche les ennuis avec une lanterne. Et si elle affirme appartenir à un Aja, celui-ci a la priorité sur elle. Mirel vous a raconté l'histoire de la femme qui se faisait passer pour une sœur verte à Tchatchin. Elle a démasqué cette ancienne novice, chassée de la tour après n'avoir pas réussi à accéder au statut d'accepté. Si vous ne connaissez pas l'histoire, demandez à Mirel, quand elle aura une heure ou deux devant elle. Il faudra au moins ce temps-là. L'usurpatrice a dû regretter de ne pas avoir été calmée, voire décapitée, avant qu'une sœur lui mît la main dessus.
Bizarrement, la menace implicite n'impressionna pas plus Hélène que le regard glacial avait perturbé Ninevé. Les deux amis étaient peut-être bien trop fatigués pour réagir.
« Dis-moi ce que tu sais !»
souffla Elaine.
« Sinon, la prochaine fois que nous serons seuls, je t'apprendrai les bonnes manières, et après tu pourras toujours aller pleurer dans l'Égypte de Sheriam si ça te chante. »
Siouan plissa les yeux. Soudain, Elaine glapit en portant une main sur sa hanche. Sans essayer de dissimuler que c'était elle qui venait de pincer la fille héritière, Siouan grogna.
« Je n'aime pas les menaces, gamine. Tu sais aussi bien que moi ce qu'a dit Elaïda. Tu l'as même su avant tout le monde. Revenez, tout est pardonné ?»
lâcha Ninevé, incrédule.
« En gros, c'est ça. Avec tout un blabla gluant sur le besoin d'unité de la Tour Blanche. Maintenant plus que jamais. Et une tirade mielleuse sur la clémence qui attend toutes les sœurs. Sauf celles qui se sont pour de bons rebellés. La lumière seule sait ce que ça veut dire.
Pourquoi garder ce message secret ?
Demanda Elaine.
Sheriam et les autres ne peuvent pas croire que quelqu'un pourrait se rallier à Elaïda.
Pour empêcher ça, il suffit d'ailleurs d'évoquer Loghain.
Regardant les champions, le front plissé, Siouan ne répondit pas.
Je ne vois pas pourquoi elle demande un délai,
marmonna Ninevé.
Elles savent ce qu'elles ont à faire, non ?
Siouan ne broncha toujours pas.
Tu ne sais pas ce qu'elles ont répondu ?
Si, je le sais,
maintenant, grommela Siouan. Entre ses dents, elle ajouta quelque chose sur des idiotes aux genoux jouant des castagnettes. Elaine approuva du chef. La porte de l'ancienne auberge s'ouvrit soudain. Six représentantes sortirent de la petite tour, une par Aja, puis Tarna apparut, suivie par toutes les autres sœurs membres du hall de la tour. Si les curieux s'attendaient à une quelconque cérémonie, ils en furent pour leurs frais. Se hissant en selle, Tarna balaya du regard les Aes Sedai, fit de même avec la foule, puis talonna sa monture. L'entourant, son escorte de champions se mit en route avec elle. Non sans ronchonner entre eux, les spectateurs déçus regardèrent la colonne s'éloigner. Quand Tarna fut hors de vue, la représentante Romanda grimpa sur la charrette et tira sur les franges de son châle, tandis que le silence se faisait. Traditionnellement, la doyenne du hall était son porte-parole. Bien entendu, Romanda ne se déplaçait pas comme une vieille femme, et son visage, comme celui de toutes les sœurs, était sans âge. Mais chez une Aes Sedai, des tempes grisonnantes étaient déjà un signe de vieillesse, et le chignon de Romanda était uniformément gris, très pâle en plus de tout. Elaine aurait bien voulu savoir l'âge de cette femme, mais interroger une Aes Sedai à ce sujet était le comble de l'incorrection. Pour que sa voix de soprano porte, Romanda tissa quelques flux d'air des plus élémentaires. Du coup, Elaine eut l'impression d'être quasiment nez à nez avec l'oratrice.
« Ces derniers jours, beaucoup d'entre vous se sont inquiétés, et elles ont eu tort. Si Tarna Sedai n'était pas venue, nous aurions envoyé des messages à la tour. Après tout, on ne peut pas vraiment dire que nous nous cachons ici, pas vrai ?»
Romanda marqua une pause pour laisser son public rire de la saillie, mais elle n'obtint aucune réaction.
« Notre objectif n'a pas changé. Nous cherchons toujours la vérité et la justice, avec l'idée de faire ce qui est bon. »«
Bon pour qui ?»
grinça Ninevé.
« Pour ça, nous sommes déterminés à ne jamais faiblir ni renoncer. Retournez à vos occupations avec l'assurance que nous vous protégeons et que nous continuerons lorsque vous aurez retrouvé à la Tour Blanche la place qui vous revient de droit. Que la lumière brille sur vous et sur nous tous.
Alors que Romanda sautait de son perchoir, la foule se dispersa lentement en maugréant d'abondance. Les lèvres exsangues à force d'être pincées, Xuan affichait une impassibilité de statue. Elaine aurait voulu poser une question, mais Nineveh sauta du perron pour se diriger vers le bâtiment à trois niveaux. La fille héritière la suivit à la hâte. La veille, son amie s'était déclarée prête à balancer tout ce qu'elles avaient appris sans prendre la moindre précaution. Or, pour influencer le hall, il allait falloir présenter les choses judicieusement. À l'évidence, la respectable assemblée avait besoin qu'on la secoue un peu. La communication de Romanda n'était que du vent, et à l'évidence, Xuan ne s'attendait pas à ça. Se faufilant entre deux solides gaillards qui foudroyaient du regard les omoplates de Nineveh, qui venaient de leur marcher sur les pieds, Elaine jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et vit que Xuan les regardait fixement, l'ancienne sage-dame et elle. Dès qu'elle se vit repérée, la chère Damirline déchue fit mine d'apercevoir quelqu'un dans la foule. Sautant du perron, elle se dirigea à grands pas vers ses connaissances imaginaires. Pressant le pas, Elaine se demanda si le trouble de Xuan était sincère. Jusqu'à quel point jouait-elle la comédie de l'ignorance et de l'agacement? L'idée de Nineveh, partir pour Kemlin, était d'une idiotie crasse, en admettant que l'ancienne sage-dame n'y a pas déjà renoncé. Cela dit, la fille héritière brûlait d'envie de retourner à Eboudar, afin de pouvoir faire quelque chose d'utile. Tous ses secrets et ses soupçons étaient une sorte d'eczéma qu'elle ne parvenait pas à gratter. Et si Nineveh, au moins, n'avait pas en permanence retourné le couteau dans la plaie? La fille héritière rattrapa son amie au moment où celle-ci venait de rejoindre Sheryam à côté de la charrette perchoir. Morvryn était là aussi, tout comme Carlinia, et les trois femmes arboraient leurs châles. Ce matin, toutes les Aes Sedai le portaient. Les cheveux noirs de Carlinia, désormais coupés très courts, étaient le seul vestige visible du désastre qui avait failli se produire dans le monde des rêves.
« Nous voulons vous parler, » dit Nineveh à Sheryam. « En privé. »
Elaine soupira. S'il y avait de pires entrées en matière, il y en avait aussi beaucoup de meilleures. Après avoir dévisagé un moment les deux jeunes femmes, Sheryam consulta Morvryn et Carlinia du regard, puis elle lâcha.
« D'accord, à l'intérieur. »
Mais quand les cinq femmes se tournèrent vers la porte, Romanda leur barrait le chemin. Son châle aux franges jaunes orné partout de fleurs et de feuilles, à l'exception bien entendu de la flamme de Tarvalon qui s'affichait entre ses omoplates, la doyenne du hall était une robuste femme aux yeux noirs. Ignorant Nineveh, elle sourit chaleureusement à Elaine, le genre de sourire que la fille héritière avait pris l'habitude d'attendre et de redouter chez les Aes Sedai. Avec Sheryam, Carlinia et Morvryn, en revanche, Romanda ne joua pas la comédie de la bienveillance. Les dévisageant froidement, la tête bien droite, elle attendit pour s'écarter que chacune ait baissé les yeux et murmuré.
« Avec votre permission, représentante. »
Alors seulement, et non sans un de ses soupirs bien féminins, elle daigna dégager le passage. Même si les gens lambda ne risquaient pas de s'en apercevoir, Elaine savait que des remarques plus ou moins acides circulaient parmi les Aes Sedai au sujet de Sheryam et de son conseil réduit. Certaines sœurs pensaient que cet organe officieux s'occupait de la vie quotidienne à Salidar, déchargeant ainsi le hall de ses tâches subalternes. D'autres avaient conscience que Sheryam et son cercle influençaient les représentantes, mais les opinions divergeaient sur la portée réelle de cette influence. Aux yeux de Romanda, cette bande qui comptait deux sœurs bleues et aucune jaune, une faute presque impardonnable, avait pris bien trop d'importance. Elaine sentit le regard de la doyenne peser sur elle, tandis qu'elle suivait les Aes Sedai et Nineveh dans l'auberge. Sheryam guida le petit groupe dans une des pièces privées attenantes à l'ancienne salle commune. Dès que les cinq femmes furent dans la pièce au lambris rongé par les insectes, une table de travail lestée de documents trônant au centre, Nineveh surprit Sheryam en demandant qu'on érige une protection contre les oreilles indiscrètes. L'Aes Sedai consentit cependant à le faire sans poser de questions. Se souvenant du récent exploit de Nineveh, Elaine s'assura que les fenêtres étaient hermétiquement fermées.
« J'espère que vous allez nous annoncer que Randaltor est en chemin pour Salidar. »
lâcha Morvryn. Les deux autres Aes Sedai échangèrent un regard intrigué. Elaine maîtrisa son indignation. Les sœurs pensaient vraiment que Nineveh et elle leur cachaient au sujet de Rand de terribles secrets. C'est sacré Aes Sedai et leur fichu secret.
« Non, »
répondit Nineveh.
« Mais ce que nous avons à dire est aussi important, dans un autre ordre d'idées. »
Sur ces mots, elle relata le voyage à Eboudar et la découverte du Terangréal en forme de coupe. En trichant avec la chronologie, et sans mentionner la tour, mais en n'omettant rien de capital.
« Vous êtes sûr que c'est un terrain gréal ?»
demanda Sheriam quand le récit fut achevé.
« Et il peut influer sur le climat ?»«
Oui, »
répondit Elaine, optant pour la simplicité. Au début, la simplicité était toujours le meilleur choix. Pourtant, Morvryn grommela quelque chose. Décidément, cette femme doutait de tout.
« Alors ?»
fit Sheriam en tirant sur son châle.
« Vous avez bien agi. Nous enverrons une lettre à Merylil. »
Merylil, c'est Anne Devine, la sœur grise envoyée à Iboudar pour convaincre la reine de soutenir Salidar.
« Bien entendu, vous devrez nous donner tous les détails. Elle ne trouvera jamais la coupe !»
s'écria Nineveh avant qu'Elaine ait pu ouvrir la bouche.
« Elaine et moi, nous réussirons !»
Les Aes Sedai se rembrunirent.
« Merylil n'y arrivera sûrement pas !»
intervint la fille héritière.
« Alors que nous savons où est la coupe, ce ne sera pas un jeu d'enfant pour nous. Au moins, nous avons idée de ce que nous cherchons. Une description écrite ne sera pas aussi efficace. Et Boudar n'est pas un endroit pour deux accepter, »
dit froidement Carlinia.
« Nous devons toutes faire ce que nous maîtrisons le mieux, mon enfant, »
fit Morvryn d'un ton un peu plus conciliant.
« Crois-tu que Desina, Afara ou Kissin avaient envie d'aller au Tarabon ? Comment vont-elles s'y prendre pour amener l'ordre dans ce pays ? Comme il fallait essayer, elles sont parties sans discuter. Au moment où nous parlons, Kiruna et Bera doivent être de l'autre côté de la colonne vertébrale du monde, en train de chercher Randall Thor dans le désert des Aiel. Tout ça parce que nous supposions à un moment qu'il y était. Nous avions raison, mais ça ne rend pas leur voyage moins inutile puisqu'il n'y est plus. Nous faisons tout ce que nous pouvons et ce qui s'impose. Nineveh et toi, vous êtes des acceptés, et les acceptés ne vont pas à Iboudar. « Ni ailleurs, en fait. Votre devoir, c'est de rester ici et d'étudier. Et même si vous étiez des sœurs confirmées, je refuserais que vous partiez. En 100 ans, personne n'a fait autant de découvertes que vous en quelques semaines. »
Fidèle à elle-même, Nineveh préféra ne pas avoir entendu ce qui ne lui plaisait pas et se tourna vers Carlinia.
« Nous nous en sommes très bien tirés toutes seules, savez-vous. Je doute qu'Eboudar soit pire que Tanchico. »
Elaine aurait juré que l'ancienne sage-dame n'avait pas conscience de serrer sa natte à s'en faire blanchir les phalanges. Apprendrait-elle un jour qu'un peu de civilité permettait souvent d'obtenir ce qu'on avait toutes les chances de perdre en se montrant trop brusque ?
« Je comprends vos inquiétudes, Aes Sedai, »
intervint la fille héritière.
« Mais si immodeste que ça puisse paraître, j'affirme être mieux qualifié que quiconque d'autre à Salidar, quand il s'agit de localiser un terrain gréal. Nineveh et moi, nous savons où chercher, et ce sera impossible à communiquer dans une lettre. » Si vous nous envoyez rejoindre Merylil Sedai, il nous faudra peu de temps, sous sa supervision, pour découvrir la coupe. Tout ça prendra les quelques jours du voyage aller et retour, et le temps d'un bref séjour à Eboudar sous la surveillance de Merylil Sedai.
Elaine parvint à ne pas perdre trop de temps à reprendre son souffle, afin d'enchaîner au plus vite.
Pendant ce temps, vous pourriez envoyer un message à un des agents de Siwan, à Kemlin, afin que la nouvelle soit connue quand Merana Sedai et la délégation arriveront.
Au nom de la lumière, pourquoi ferions-nous ça ?
S'exclama Morvryn. «
Je pensais que Nineveh vous l'avait dit, Aes Sedai. Je n'en suis pas certaine, mais je pense que la coupe, pour fonctionner, a besoin d'un homme capable de canaliser le pouvoir. »
Cette révélation provoqua bien entendu une petite commotion. Carlinia lâcha un petit cri. Morvryn marmonna de plus belle, et Sheriam en resta bouche bée. Nineveh aussi, mais pas longtemps. Une main venant faire écran devant ses lèvres avant que les Aes Sedai aient pu remarquer quoi que ce soit. Sans doute parce qu'elles étaient bien trop stupéfaites. En fait, il s'agissait purement et simplement d'un mensonge. Là encore, la simplicité était la clé. Selon ce qu'on disait, les plus belles réalisations durant l'âge des légendes avaient été l'œuvre d'hommes et de femmes qui canalisaient ensemble, probablement en étant liés. Très vraisemblablement, il existait des terrains gréals exigeant l'intervention d'un homme pour fonctionner. De toute façon, si Elaine ne parvenait pas à utiliser la coupe seule, personne à Salidar ne devait en être capable, à l'exception de Nineveh peut-être. S'il fallait rendre pour ça, ces Aes Sedai ne pouvaient pas laisser passer l'occasion d'agir sur le climat. Et jusqu'à ce que la fille héritière ait découvert qu'un cercle de femmes pouvait contrôler la coupe, les sœurs de Salidar se seraient trop liées à rendre pour pouvoir s'en libérer.
« Tout ça est bien beau, »
dit Sheriam.
« Mais vous n'en restez pas moins désaccepté. Nous enverrons une lettre à Merylil. Nous avons parlé à propos de vous deux et... »«
Parlez !»
coupa Nineveh.
Voilà tout ce que vous savez faire, le haulez-vous. Avec Elaine, nous pouvons trouver le terrain gréal. Mais vous préférez cacter comme des poules.
Éructant plus qu'elle ne parlait, Nineveh tirait si fort sur sa tresse qu'Elaine redouta qu'elle se l'arrache du crâne.
Vous restez ici, bien assise, en espérant que Tom, Julien et les autres reviendront nous dire que les capes blanches ne nous tomberont pas dessus comme la foudre. En réalité, ces malheureux risquent de revenir ici avec des fils de la lumière à leur trousse. En attendant le désastre, vous parlez sans fin d'Elaïda, au lieu de vous concentrer sur Rand, comme vous l'avez pourtant décidé. Avez-vous défini votre position vis-à-vis de lui? Bien sûr que non. Pourtant, votre délégation est déjà en route pour Kemlin. Savez-vous pourquoi vous ne faites rien à part bavasser? Parce que vous avez peur. Peur que la tour soit divisée. Peur de Rand, des rejetés, de la Janoire. La nuit dernière, Anaya a dit, une fuite involontaire, que vous avez un plan tout prêt au cas où un des rejetés attaquerait. Tous ces cercles qui se sont formés, juste après que la bulle maléfique eut éclaté. Au moins vous y croyez maintenant? Tous ces cercles, oui, mais mal assortis. Et la plupart composés de plus de novices que d'Aes Sedai. Pourquoi? Parce que seule une poignée de sœurs était informée avant qu'il faille agir. Pour que votre fameux plan n'arrive pas aux oreilles de Samael ou d'un autre rejeté, n'est-ce pas? Vous vous méfiez les unes des autres. Et vous ne faites confiance à personne. C'est pour ça que vous refusez de nous envoyer à Iboudar? Parce que nous appartenons peut-être à la Janoire? Ou parce que nous risquons d'en profiter pour aller rejoindre Rand?
N'ayant pas repris son souffle durant toute la tirade, l'ancienne sage-dame fut obligée d'y mettre un terme. La première réaction d'Elaine, instinctive mais pas vraiment spontanée, fut de tenter d'arrondir les angles, comme d'habitude. Et tant pis si elle n'avait pas la première idée de la démarche à suivre pour ça. Autant vouloir arrondir les pics d'une chaîne de montagne. Regardant les Aes Sedai, elle cessa soudain de redouter que Nineveh ait irrémédiablement tout gâché. Ses visages de marbre et ses yeux glaciaux n'auraient rien dû exprimer. Pour la fille héritière, ils en disaient très long. L'absence de colère, par exemple, après une telle tirade contre des sœurs, indiquait que les coups avaient fait mouche. L'impassibilité, dans ce cas précis, était un masque cachant une vérité que les trois femmes auraient donné cher pour jeter à jamais au fond d'un puits. Elles avaient bel et bien peur.
« Tu as fini ?»
demanda Carlinia, d'une voix assez glaciale pour faire geler le soleil à son zénith. Elaine éternua et se cogna la tête contre le bord du chaudron couché sur le côté. Une odeur de soupe brûlée lui agressa les narines et son estomac manqua se retourner. Sous le soleil de plomb de la matinée, l'énorme ustensile de cuisine à l'intérieur noirâtre était aussi chaud que s'il avait reposé au-dessus d'un feu. Du coup, la fille héritière dégoulinait de sueur. Elaine recula sur les genoux, lâcha son morceau de pierre ponce et foudroya du regard la femme accroupie à côté d'elle. Ou du moins, la moitié de femmes qui émergeaient d'un chaudron un tout petit peu plus petit que le sien, et lui aussi couché sur le flanc. Quand elle enfonça un index dans le flanc de Nineveh, Elaine eut la satisfaction de voir celle-ci sursauter. Aussitôt après, un bang indiqua qu'elle aussi venait de se cogner la tête. Bien fait pour elle. L'ancienne sage-dame émergea du chaudron et jeta un regard noir à sa malicieuse compagne. Voyant qu'elle levait une main pour dissimuler un bâillement, Elaine ne lui laissa pas l'occasion de parler.
Il a fallu que ça pète, pas vrai? Tu n'as pas pu te retenir 5 minutes. Nous avions les choses bien en main, mais il fallait que tu sabotes tout. Les sœurs ne nous auraient pas laissé aller à Iboudar de toute façon. Et pour le sabotage, tu m'as bien aidé.
Nineveh pointa le menton d'une manière ridicule, qui l'obligea à regarder le long de son nez pour voir Elaine.
Les Aes Sedai maîtrisent leur peur,
dit-elle du ton qu'elle aurait pris pour morigéner un poivreau, venant de se jeter dans les jambes de son cheval.
Elles ne se laissent pas dominer par elles. Si on marche devant, elles suivent volontiers. Mais il faut prendre les choses en main. Pas rentrer la tête dans les épaules en espérant que les problèmes se volatiliseront.
Elaine rosit. Enfin, elle ne s'était pas comportée ainsi. Et surtout, elle n'avait pas parlé de cette manière.
Bon. J'admets que nous avons peut-être un peu déraillé toutes les deux, mais...
Des bruits de pas incitèrent la fille héritière à se taire.
Alors, les petites favorites des Aes Sedai ont décidé de se reposer un peu?
Lança Faolein avec un sourire qui n'avait rien d'amical.
Je ne suis pas ici pour m'amuser, savez-vous? Aujourd'hui, je comptais travailler sur un projet personnel, tout à fait comparable à ceux de nos deux enfants chéris. Au lieu de ça, voilà que je dois surveiller des acceptés, condamnés à récurer des chaudrons pour expier leurs fautes. Oui, je suis chargé d'empêcher que vous vous défiliez, comme la paire de misérables novices que vous devriez être. Allons, au travail. Je ne peux pas partir avant que vous ayez fini, et je n'ai pas l'intention de moisir ici.
Comme Théodrine, Faolein aux cheveux noirs bouclés était moins qu'une Aes Sedai et plus qu'une acceptée. Le statut qu'auraient eu Elaine et Nineveh si cette dernière n'avait pas feulé comme une chatte à qui on marche sur la queue. Sheriam leur avait annoncé cette promotion avortée, au beau milieu de l'énoncé de leur punition. Tout leur temps libre passé aux cuisines à s'acquitter des pires corvées que leur trouveraient les cuisinières. Quant à Eboudard, mieux valait faire une croix dessus. Vers midi, voire plus tôt, une lettre partirait à l'intention de Merylil.
« Je suis désolé, »
souffla Nineveh. Elaine n'en crut pas ses oreilles. Des excuses de l'ancienne sage-dame? Autant s'attendre à voir de la neige en plein été.
« Moi aussi, Nineveh, »
répondit la fille héritière.
« Ah, pour ça, vous pouvez l'être !»
jubila Faolaine.
« Mais je dis au travail! Vite, avant que je vous trouve une raison de vous envoyer voir Tiana, quand vous en aurez terminé !»
Avec un regard mélancolique pour Nineveh, Elaine s'enfonça de nouveau dans le chaudron crasseux et l'attaqua à grands coups de pierre ponce, comme si elle s'en prenait à Faolaine. « Non, » se dit-elle, tandis que la suie et des morceaux de légumes carbonisés lui sautaient au visage. Plutôt aux Aes Sedai, qui restaient assises sur leur séant alors qu'elles auraient dû agir. Quoi qu'il arrive, elle irait à Eboudard, elle trouverait le terrain gréal, puis elle s'en servirait pour unir Sheriam et les autres sœurs à Rand. À genoux, s'il le fallait. À cause de la suie, elle éternua assez fort pour redouter d'en perdre ses chaussures. Se détournant de la fente dans la clôture, une position idéale pour espionner les deux jeunes femmes, Sheriam entreprit de remonter l'étroite allée envahie de broussailles et de lierre.
« Je regrette que nous en soyons arrivés là, »
dit-elle. Au souvenir de la tirade et du ton de Nineveh, sans oublier Elaine, cette petite peste, la Aes Sedai modula sa pensée.
« Jusqu'à un certain point, en tout cas. »
Carlinia eut un des ricanements sardoniques dont elle avait le secret.
« Tu voudrais dire à les accepter ce que moins de 20 Aes Sedai savent ?»
Un regard de Sheriam réduisit l'impertinente sœur au silence.
« Des oreilles traînent là où on s'y attendrait le moins, Carlinia. »«
Ces deux filles ont raison sur un point, »
dit Morvryn.
« Rand me terrorise. Vis-à-vis de lui, quelles options nous restent-ils ? »
Des options ? En toute honnêteté, Sheriam n'aurait pas juré qu'il leur en restait, tout simplement.